VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine et le conflit en Afghanistan. Le négociateur américain Zalmay Khalilzad a quitté les États-Unis pour se rendre à Doha, au Qatar. À son programme, reprendre les pourparlers avec les talibans dans l'espoir de conclure un accord permettant le retrait des soldats américains de l'Afghanistan après 18 ans de présence militaire américaine dans le pays. Le point avec Nathalie Barge.
L'administration de Donald Trump espère que ce nouveau round de discussion à Doha sera le dernier et qu'il permettra de déboucher sur un accord avec les talibans. Il prévoit un retrait militaire américain avec un calendrier précis. En retour, les talibans s'engagent à ce que les territoires qu'ils contrôlent ne soient plus utilisés par des organisations pour mener des attaques terroristes. Un cessez-le-feu ou tout au moins une réduction de la violence devrait également figuré dans le texte, qui serait historique 18 ans après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis. Les talibans accepteraient aussi pour la première fois d'engager des discussions avec le gouvernement de Kaboul. D'ailleurs, le département d'État précise que Zalmay Khalilzad doit se rendre ensuite à Kaboul pour encourager les préparatifs de ces négociations inter-afghanes qui pourraient se tenir à Oslo. Les États-Unis ont engagé depuis un an un dialogue direct inédit avec les talibans. La dernière session s'est achevée il y a moins de 10 jours au Qatar. Le président Trump souhaite un retrait des troupes américaines d'Afghanistan avant l'élection présidentielle de 2020.
Afrique maintenant, au Soudan, la transition vers un pouvoir civil suite à l'accord historique entre les militaires qui dirigent le pays et le mouvement de contestation prend corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être suivi de la nomination de Premier ministre de consensus. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar al-Béchir le 11 avril et l'actuel chef du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment comme président du Conseil souverain, a indiqué aujourd'hui l'agence de presse officielle soudanaise SUNA. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, le général al-Burhan sera aux commandes du Conseil souverain pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. En République démocratique du Congo, 62 personnes accusées de massacre de civils en Ituri entre 2017 et 2018 ont comparu hier devant un tribunal militaire à Bunia, chef-lieu de cette province du nord-est du pays. Plus de détails avec Irénée Hermann Umbo.
62 miliciens arrêtés sur différents fronts dans la province de l'Ituri étaient à la barre, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette province. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, pour viol et meurtre. Ils sont aussi accusés de massacre des civils, de pillage et d'incendie des villages entiers, a expliqué l'officier à l'issue de l'audience. Le procès se tient devant le tribunal militaire de Bunia et avait commencé le 20 juillet 2018 avant d'être suspendu. Nous saluons la poursuite de ce procès, a réagi Bienvenu Oukek, responsable de l'ONG Justice Plus. Pour ce militant des droits de l'homme, ce procès risque de ne pas avoir des effets dissuasifs sur les auteurs des crimes qui se déroulent dans l'Ituri. Selon lui, l'armée doit fournir des efforts pour arrêter les vrais commanditaires de ces exactions qui se poursuivent, ainsi que le recrutement de jeunes par des milices.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, la décision de la justice militaire de condamner 10 leaders séparatistes anglophones à la prison à perpétuité suscite des réactions diverses. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Les avocats des 10 leaders séparatistes anglophones sont encore sous l'effet de la sentence rendue contre Ayouk Sissiku et les 9 autres devant le tribunal militaire de Yaoundé. Donc Christopher Nfé, avocat.
Comment juger quelqu'un qui a à sa charge la condamnation à vie sans avocat, c'est la violation pas possible de tout instrument du monde. Ils doivent être condamnés à vie. On ne dit pas qu'on ne connaissait pas. Et nous disons, ils ont vite aller en besoin sans toutefois suivre la procédure normale, nous disons c'est le braquage judiciaire, c'est le cinéma.
Au cours de l'audience, les avocats des leaders séparatistes ont recusé le juge militaire en charge de l'affaire. Ce dernier n'a pas cédé à cette procédure. Maître Ndong Christopher, avocat des leaders séparatistes anglophones, craint que la décision ne fasse entorse à la volonté du dialogue.
Tout un gouvernement qui veut, il prône la dialogue. Est-ce que c'est le sens de la dialogue là-bas? Vous avez pris les gens, dialogue avec eux, vous comptez seulement les infliger la peine à vie. Ils crient la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils ont, à travers ces décisions, satisfait les anglophones? On dit non.
Les Camerounais ont appris la nouvelle de la condamnation à vie des leaders séparatistes avec surprise. Ils ne sont pas pour autant indifférents au verdict rendu. Joseph Yomba Boni, juriste conseil.
L'État du Cameroun a usé d'un pouvoir qui, sauf erreur de ma part, est le sien. Celui de préserver l'intégrité du territoire camerounais.
Jean Abanda est expert en santé publique et pense que l'État du Cameroun n'a pas appuyé sur la pédale douce avec ce verdict.
Le Cameroun traverse une situation sécuritaire sans précédent. Je pense pour apaiser les tensions, et on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire en dissuadant ceux-là qui veulent partir parce qu'ils ont quand même des raisons.
Au sein du parti au pouvoir, le verdict est considéré à sa juste valeur, mais n'exclut pas la volonté du dialogueur du pouvoir, selon Jean-Baptiste Atemengue, militant du RDPC.
Je suis solidaire de cette décision parce que cette décision a été rendue au nom du peuple camerounais. Il n'y a pas de pardon ni de réconciliation sans justice. Et cela n'est pas incompatible avec le dialogue dont ensuite le président de la République dispose d'un certain nombre d'outils que lui confère la Constitution pour ensuite apaiser la situation parce que c'est le vœu de tous les Camerounais.
En janvier 2018, les 10 leaders séparatistes anglophones avaient été arrêtés au Nigeria et extradés au Cameroun. Leurs avocats ont annoncé qu'ils vont interjeter appel. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le fondateur du groupe de presse Lynx a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Souleymane Diallo, doyen de la presse guinéenne, est accusé entre autres de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique. Monsieur Diallo a été convoqué à la police suite à la production d'une émission interactive sur Lynx FM, une radio privée installée à Conakry. Le point avec notre correspondant dans la capitale guinéenne, Zakaria Camara.
Lundi matin, Souleymane Diallo est le directeur de Lynx FM, une radio privée qu'il a créée il y a quelques années, arrive dans le locaux de la Direction nationale de la police judiciaire. Le patron du groupe de presse Lynx est entendu pendant des heures par deux agents. S'en suivit une autre audition devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. Il est inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Souleymane Diallo est accusé de complicité de production, de diffusion de données de nature à troubler la sécurité publique, porter atteinte à l'honneur et la dignité sur le fondement des articles 32 et 33. 3 de la loi sur la cybersécurité. La procédure a été engagée après l'intervention dans l'émission Aide de Lynx de Doussou Condé, une opposante au régime du président Alpha Condé basé aux États-Unis. Dans une déclaration publiée lundi, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée se dit préoccupée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Niger, deuxième et dernier jour de la grève des employés du réseau Orange pour obtenir des négociations salariales et des garanties sur l'avenir de leur emploi. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Un délégué du personnel, Ali Hachimou, a indiqué que la grève est largement suivie sur l'ensemble du pays. Les communications sur le réseau Orange ne sont pas encore paralysées, mais si nous n'avons pas satisfaction, nous reconduirons la grève, a-t-il prévenu. Les grévistes réclament la reprise des négociations sur la révision d'un accord salarial entamé avant la fermeture en novembre 2018 de la société par le fisc nigérien pour non-paiement d'impôts. Ces négociations n'ont pas pu reprendre après la réouverture de la société en raison d'un règlement préventif a expliqué le syndicaliste. De son côté, Nathalie Chevrier, attachée de presse d'Orange à Paris, a expliqué que Orange Niger fait face à des difficultés financières importantes du fait de conditions de marché difficiles. Elle souligne que Orange Niger reste prêt à examiner toute solution alternative qui préserverait le maintien de l'activité et les intérêts de son personnel. Les grévistes veulent également que leur emploi soit préservé dans le cadre d'un éventuel contrat entre Orange et un nouveau repreneur.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Alors,